Bah salut à tout le monde.
1, 2, 1, 2.
Oui, allô, allô.
Ça va, ça marche?
Alors, je vais pour faire, je fais une émission de radio.
Oui.
De radio, Radio Bartas.
Durant l'été, le mercredi de 18 à 20h,
ouais.
C'est le direct dans les Bartas.
Bon, bah c'est une première pour moi. Hein,
je suis super à l'aise avec les micros, j'adore ça.
On va pas rigoler.
Moi j'aime bien.
C'est fort, mais c'est bien. Ouais. Bon, vu que je suis à moitié sourd.
Vous avez pas de portable allumé là?
Nous sommes des petits enfants.
C'est mon tour. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que je devrais parler plus proche?
Des interviews, des invités, de la musique, de l'actu et plein d'autres choses encore.
Moi je sais pas si je vais rester, je suis un peu outré par les propos que j'entends.
Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 25 novembre 2015 et vous êtes bien à l'écoute de Radio Bartas pour un nouveau direct du mercredi. Alors ce soir, je vous propose de consacrer ce direct à l'agriculture, mais pas à n'importe laquelle, l'agriculture de montagne, l'agriculture paysanne de montagne même, je devrais dire, agriculture que nous connaissons bien à Florac, entre Causses et Cévennes. Alors en effet, nous allons revenir sur un colloque qui s'est tenu les 5 et 6 novembre dernier à Ax-les-Thermes, donc c'est en Ariège, un colloque européen donc portant sur l'agriculture paysanne de montagne qui était organisé par la Confédération paysanne et le réseau des ADAR. Alors ces deux journées étaient consacrées à échanger et débattre sur la réalité et les enjeux de l'agriculture paysanne de montagne. Pour vous donner un ordre d'idée, d'après les données du recensement agricole de 2010, on compte en France 490 000 exploitations agricoles, dont 76 000 se situent en zone de montagne et 6 000 en haute montagne. Alors c'est une agriculture qui est pourvoyeuse d'emplois avec notamment 112 000 UTA. Alors UTA c'est unité de travail annuel. C'est aussi une agriculture nourricière avec beaucoup d'élevage. Par exemple il y a 24% du cheptel caprin qui se situe en zone de montagne, 34% des brebis allaitantes sont en zone de montagne et pour illustrer par un autre exemple, 91% des brebis laitières sont en zone de montagne. Mais l'agriculture de montagne, c'est aussi du maraîchage, des petits fruits, de la viticulture, donc pas que de l'élevage. Alors pour préserver l'agriculture de montagne, c'est déjà une nécessité d'un point de vue économique ou bien par exemple en termes d'aménagement du territoire. Alors ce colloque, il s'inscrivait dans le cadre d'une évolution des politiques agricoles de montagne, d'une part avec l'actualisation annoncée de la loi montagne qui a plus de 30 ans désormais, mais aussi de l'évolution de la PAC et des mesures spécifiques de soutien à l'élevage de montagne. Alors ce colloque, il a permis de pointer un certain nombre d'inquiétudes quant au devenir de l'agriculture, mais aussi de faire un certain nombre de propositions pour l'avenir. Alors ce soir, on va revenir sur ce qui s'est dit pendant ces deux jours, et pour en parler avec moi, je reçois sur ce soir Muriel Pascal. Bonsoir Muriel.
Bonsoir.
Alors je crois que c'est inutile de te présenter, mais je vais le faire quand même. Donc tu es apicultrice au Bondon et co-porte-parole de la Confédération paysanne Lozère. Et j'en profite également pour saluer Cécile qui m'accompagne à la technique ce soir.
Salut François.
Salut Cécile. Alors Muriel, on est allé ensemble avec quelques Lozériens et Aveyronnais à ce colloque. J'avais une première question à te poser, c'était pourquoi ce colloque? En fait, c'est un colloque européen, c'est pas forcément quelque chose de fréquent. Donc qu'est-ce qui a poussé la Confédération paysanne à l'organiser?
Alors c'est pas quelque chose de fréquent, pas tout à fait. C'était quand même quelque chose qu'on faisait assez régulièrement à la Confédération paysanne il y a quelques temps, mais c'est vrai que depuis quelques années, il n'y avait pas eu trop de colloques de ce style-là. Donc on a un peu renoué avec ce qu'on faisait auparavant. Pourquoi ce colloque? Ben, tu l'as déjà dit un peu dans l'introduction, parce qu'il y a la révision, enfin la réactualisation probable de la loi Montagne, donc loi Montagne qui est de 85, donc il y a ses 30 ans, avec aussi la nouvelle PAC qui est en train de rentrer en application, faire le point par rapport à ce que ça va avoir comme incidence sur les territoires de montagne, et il y en a beaucoup. Faire le point aussi par rapport à la mise en place des programmes de développement rural, de l'ancien deuxième pilier de la PAC, et voir aussi les incidences que ça peut avoir ou ce qu'on aimerait voir encore évoluer dans ces PDR.
Très bien, alors il s'est dit beaucoup de choses durant ces deux jours, je disais, donc on n'aura pas le temps de tout traiter. Alors je vous propose qu'on écoute l'intervention qu'a fait Laurent Pinatel donc le deuxième jour, le vendredi. Donc il fait un petit bilan de ces deux rencontres, et surtout il y avait la présence de Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, donc, qui est intervenu à ce moment-là. Et donc, Laurent Pinatel a aussi interpellé le ministre sur un certain nombre de points. Donc, on va écouter l'intervention de Laurent Pinatel qui dure un bon quart d'heure. Et
qui
ensuite...
est notre porte-parole national.
Voilà, c'est vrai, je ne l'ai pas précisé. Et donc, je te propose ensuite qu'on revienne sur les points essentiels de son intervention.
Alors, ce colloque et votre venue s'inscrivent dans un contexte politique assez particulier. On est à la veille des élections régionales, j'imagine que ça ne vous aura pas échappé les uns ou les autres. À la veille des élections régionales, avec deux grandes inquiétudes et deux grandes inquiétudes. Tout d'abord, la réforme des régions, qui fait qu'on va passer dans les super-régions, dans les inter-régions, on les appelle comme on veut, mais qui vont, quoi qu'il arrive, éloigner encore un peu plus les lieux de décision, les grandes métropoles, des citoyens, de la ruralité, et nous, paysans, vous, élus aussi des communes un peu plus rurales. C'est quelque chose qui, j'imagine, doit vous inquiéter, en tout cas, nous, ça nous inquiète. Quelle place pour la ruralité avec cette réforme des régions ? Un contexte politique assez particulier aussi, puisque même si cette région est un peu moins concernée, on voit que les discours excluants, les discours fascisants se font jour et trouvent de plus en plus d'adhésion à travers la société. Et ça, la Confédération paysanne, c'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup. Et ce contexte où on accrédite, où on laisse dire tout et n'importe quoi, où on laisse porter des discours de haine, c'est quelque chose que l'on condamne fortement et sur lequel on est très vigilant. Ce contexte aussi de votre venue, c'est dans la mise en place de la réforme de la PAC. La réforme de la PAC, en montagne, puisqu'on est sur un colloque montagne, même si elle se met aussi en place ailleurs, c'est des changements et c'est des inquiétudes. Et c'est aussi des oubliés, en fait, dans la réforme de la PAC, en montagne comme ailleurs, c'est le maraîchage, c'est l'arboriculture, la viticulture, les apiculteurs, la volaille, et j'en passe, qui ont été oubliés de la réforme de la PAC. Et dans des régions comme celle-là, ça a encore plus de signification, puisqu'on sait que la diversité de l'agriculture de montagne est plus approuvée, et c'est quelque chose d'important. Vous venez aussi, monsieur le ministre, dans un contexte de crise d'identité de l'agriculture. On voit depuis le début de l'été où l'agriculture est en crise, on n'arrête pas d'en parler, le porc, le lait. Encore que le lait, on nous dit que le pire est à venir, donc ça nous promet des jolies journées, la viande, les installations qui sont de plus en plus faibles. On peut dire que c'est une crise de l'agriculture, toutes productions confondues, que ce soit l'arboriculture, les fruits et légumes, les productions végétales dans leur ensemble, mis à part peut-être les céréales et les grandes cultures. On a l'impression qu'en fait, le mirage de l'export et la volonté exacerbée d'aller chercher encore plus de croissance sacrifient une partie des petits et moyens paysans. Et on se dit en fait que... On entend le discours du président Hollande d'aller chercher toujours plus de croissance. C'est censé répartir un peu plus de richesses. Mais est-ce que la répartition des richesses, comme elles sont créées actuellement, est satisfaisante ? Est-ce qu'il faut aller chercher encore plus de richesses pour les répartir encore plus mal et pour faire en sorte que ceux qui ont toujours plus gagnent toujours plus et que ceux qui ont toujours moins gagnent toujours moins ? Je ne pense pas qu'on fasse ce débat-là et qu'on trouve une solution cet après-midi. On est aussi dans une crise de l'alimentation de façon beaucoup plus globale, en fait. Produire de l'alimentation en quantité, c'est certes important pour nourrir l'ensemble des gens, mais en termes de qualité, c'est quelque chose de primordial. Et il nous semble qu'on a le devoir, nous paysans et vous politiques, d'offrir une alimentation de qualité à des prix accessibles pour tous, notamment à travers l'influence de la PAC et des politiques publiques. C'est aussi dans un contexte, tout ça, d'industrialisation galopante de l'agriculture. On voit que jamais le mouvement d'agrandissement des fermes, où les fermes grossissent, où les fermes deviennent de plus en plus capitalistiques, jamais ce mouvement n'a été aussi vite. Et puis aussi, votre venue, ça s'inscrit dans le cadre des négociations, des accords de libre-échange, et à quelques semaines de la COP21. Et on sait que l'agriculture est relativement fortement montrée du doigt sur les émissions de gaz à effet de serre, et que nous, à la Confédération paysanne, on a un projet qui s'appelle l'agriculture paysanne, qui, nous semble-t-il, est plus à même de remédier à ces émissions de gaz à effet de serre et au dérèglement climatique que l'industrialisation de l'agriculture telle qu'elle est proposée par d'autres. Bref, on est venu là pendant 2 jours pour travailler, pour réfléchir sur l'avenir de l'agriculture dans les massifs montagneux. On est aussi venu là pour un peu casser les clichés, quoi, de se dire que finalement, l'agriculture, c'est pas quelques moutons sur les montagnes, et puis des touristes qui prennent des photos, et puis c'est sympa, et ça va comme ça. Nous, il nous semble que l'agriculture dans les territoires montagnes, c'est avant tout l'activité économique principale de ces territoires et de ces régions. C'est par là que les territoires vivent, c'est par là qu'ils s'expriment, et c'est par là qu'ils arriveront à créer de la valeur ajoutée, et de la valeur ajoutée et de l'emploi. Donc aujourd'hui, on s'est posé pas mal de questions, là, ce matin notamment. Quelle place pour l'agriculture dans les territoires de montagne ? Quelle reconnaissance pour l'agriculture de montagne au-delà du pastoralisme ? Quelle valorisation pour les produits de montagne au-delà des appellations très spécifiques avec le tampon produit d'ici ? Quel avenir pour l'élevage avec la PAC et comment faciliter l'installation et transmission en montagne? Donc ça, c'est les questions qu'on s'est posées et puis on a aussi regardé forcément au travers de vos actions depuis le début de votre prise de fonction en direction de la montagne. L'action principale, ça a été à travers la réforme de la PAC. Vous avez plusieurs reprises dit que vous vouliez envoyer de l'argent sur ces zones, de prendre en compte tous ces secteurs difficiles. Effectivement, il y a eu une augmentation de l'enveloppe de la zone de montagne, une augmentation conséquente. Il y a eu une revalorisation de l'ICHN, et puis vous avez doté aussi les estives de droits à paiement de base. Il nous semble qu'il y avait plein de bonnes intentions, et on a pu en discuter l'autre jour, il y avait quand même cette volonté actée politiquement de dire « ces zones-là, il faut les prendre en compte, et il faut faire quelque chose pour elles ». Nous, en parallèle à la Confédération paysanne, donc on veut absolument que ce soit le poids économique qui soit pris en compte plutôt que le poids d'agro-environnement, d'entretien de l'espace et d'aménagement d'espace, même s'il ne faut pas le négliger. Il faut prendre en compte que ces systèmes d'agriculture sont souvent difficiles, avec parfois des hivernements, des bâtiments qui nécessitent des investissements plus importants, des surfaces souvent qui devraient être plus importantes du fait de stockage plus important pour l'hiver. Bref, la pente aussi à travailler. C'est pas simple d'être paysan en zone de montagne, c'est ressorti plusieurs fois. La zone de montagne aussi, c'est une particularité, c'est qu'elle est extrêmement diversifiée dans ses productions. Il y a de l'élevage, il y a du maraîchage, il y a de l'arboriculture, il y a même dans certains secteurs de la viticulture. Pourtant, quand on regarde les statistiques officielles sur toutes ces productions-là, elles sont totalement inexistantes. Un paysan qui veut s'installer, par exemple, en maraîchage, ne va trouver aucune statistique sur le maraîchage. Je pense à un maraîcher qui est là dans la salle, un maraîcher du 05 qui a dû aller voir dans le département voisin comment travailler son projet d'installation. Donc c'est quelque chose qui sera important de retravailler au niveau du service du ministère sur comment on peut cumuler des statistiques sur le fonctionnement et le revenu de ces producteurs qui sont dans ces productions diversifiées. Il faut donc les prendre en compte. Après, sur la réforme de la PAC, inévitablement, il y a des choses qui ont bien marché et il y a des choses qui me semblent être pas super efficientes. Je pense notamment, on en a parlé la semaine dernière, aux surfaces proratisées. Effectivement, il y avait l'idée de redonner de l'argent sur ces surfaces-là. Ces surfaces, elles sont par nature hétérogènes. Et on a mis en place un système qui les considère comme étant plutôt homogènes. Et ça, c'est la première... problématique et il va y avoir tous ces contrôles sanctions qui vont tomber sur les fermes. On nous parle de 12 000 fermes d'ici 15 jours qui vont être contrôlées et ces sanctions vont les mettre forcément en péril parce que ces fermes sont souvent petites, elles travaillent dans des territoires difficiles et quand les gars sont retrouvés devant leur déclaration PAC au mois de mai, quand il a fallu cocher, moi j'ai des surfaces proratisées par exemple, et on ne sait pas trop quoi, si on coche à 40 ou à 60. Par contre, le contrôleur, lui, il va savoir quand il va venir s'il fallait cocher 40, s'il fallait cocher 60, alors qu'il me semble quand même qu'il connaît un peu moins bien nos surfaces que nous. Et c'est lui qui va appliquer la sanction. Donc il y a des sanctions qui risquent de tomber. Nous vous demandons aujourd'hui, on vous l'a demandé déjà la semaine dernière, on vous l'a demandé plusieurs fois, nous vous demandons urgemment, monsieur le ministre, de trouver une solution à ce problème. Que les contrôles aient lieu, nous, on n'y est pas opposé. On n'y est pas opposé si ça permet de caler avec le paysan, de dire, bah oui, là, il y a 40% de prorata, peut-être qu'il aura mieux valu mettre 60. Que ce soit des contrôles pédagogiques, comme vous l'aviez annoncé d'ailleurs au congrès de la Fédération nationale ovine au printemps, comme nous l'avait annoncé la majorité des directions départementales des territoires dans l'été d'ailleurs. Et aujourd'hui, on nous annonce ces contrôles-sanctions. Pour nous, c'est inadmissible. C'est absolument inadmissible de venir pénaliser des gens qui entretiennent l'espace, qui ont le mérite de créer un revenu dans des conditions plutôt difficiles. Et là, ça va pas faire de pis, quoi. C'est des gens qui vont perdre de l'argent qui représente, somme toute, pas un gros budget de la PAC, quoi. Il nous semble qu'il y aura pu avoir un geste quand même sur ces territoires-là, de faire un contrôle à blanc pour permettre de recaler tout le monde d'ici l'année prochaine. Le règlement européen, vous avez négocié des choses autrement plus compliquées sur le règlement européen. Vous avez réussi à obtenir les 52 premiers hectares. Vous avez réussi à obtenir la rotation maïs sur maïs. Vous avez réussi à obtenir. Donc j'allais dire qu'on a confiance en vous, en fait, parce que on a réussi à négocier ça, il nous semble que ça doit être, pas simple, mais que ça doit être un signe fort que vous pourriez envoyer à ces territoires difficiles, et puis aussi à la Confédération paysanne, puisqu'on est quand même un peu tout seul à se battre là-dessus, d'envoyer un signe fort à tous ces paysannes et ces paysans qui vivent et qui font vivre les pays, quand ils arrivent, quelles que soient les annonces qui tombent ou qui ne tombent pas, nous, on ne lâchera pas. et on ne lâchera vraiment pas sur ce dossier-là. Et tant que les contrôles ne seront pas des contrôles à blanc, on continuera de revendiquer, de manifester et de se faire entendre. Au niveau des autres travers de la PAC, au niveau de l'ICHN, effectivement, l'ICHN a été revalorisé, mais l'ICHN est devenu dans certaines zones un peu spéculative. On en parlera peut-être un peu plus avec les questions de la salle. Il y a la gestion des DPB sur les estives collectives, qui aujourd'hui nous pose quand même des problèmes avec les gens qui vont repartir éventuellement avec leur DPB, les ramener chez eux, qu'est-ce qui va rester sur les hectares là-haut. Voilà. Il nous semble qu'il y a des choses quand même à travailler là-dessus. Et puis, il faut aussi, il nous semble important de vous alerter sur le manque de moyens de tous ceux qui gèrent les espaces pastoraux, les organisations pastorales, les associations pastorales, on les appelle comme on veut. Et aujourd'hui, il faudrait quand même envoyer un peu d'argent là-dessus. Et sur la PAC en général, et bien, notamment en montagne, il nous semble que si on veut trouver une solution budgétaire, parce que tout est budgétaire, on pourrait par exemple plafonner à l'actif les droits à paiement de base. On pourrait faire un plafonnement. On pourrait, c'est vrai. Il me semble même que si on gagne de l'argent en plafonnant, on pourrait même faire sauter les planchers qui sont eux aussi extrêmement discriminants. Le plancher des 10 vaches allaitantes contre lequel la Confédération paysanne a déposé un recours récemment, la semaine dernière. Et puis il y a toujours la prise en compte des petites fermes. Alors vous allez me dire, ah, encore les petites fermes. Ben oui, parce qu'elles sont toujours là en fait, les petites fermes. Parce qu'elles sont vachement résistantes et vachement résilientes. Mais ça va quand même devenir compliqué. Parce que si elles sont petites, c'est qu'elles sont difficiles à entretenir. Je veux dire, si c'était des territoires faciles à entretenir, on aurait plus facilement des fermes un peu grandes. Quand on est sur des fermes avec des fortes pentes, ben voilà, quoi, quand on a 20, 25 hectares, on est déjà bien occupé à les suivre. Donc ces fermes, elles sont souvent dans des zones difficiles, elles créent de la valeur ajoutée, elles créent de la dynamique territoriale. On vous l'a déjà dit dans un pays où elles sont nombreuses, au Pays Basque au mois d'avril, on le redit, parce que ça nous semble important dans la conception qu'on a de l'agriculture. Et puis il y a aussi cette histoire de surprime aux 52 hectares, qui nous semble être quelque chose d'important dans la réforme de la PAC que vous avez négociée. Cette surprime des 52 hectares, il nous semble qu'on pourrait accélérer la dotation budgétaire. Ça vous a déjà été demandé cette semaine lors du congrès du MODEF. Et la Confédération paysanne s'associe au MODEF sur cette demande d'augmentation sur la surprime des 52 premiers hectares dès 2016. Et puis voilà, je vous le redis, mais ça sera peut-être plus sur la PAC 2020, et c'est pas dit que vous serez encore en poste. Mais c'est pas moi, je suis pas devant. C'était pas une question en fait. C'était pas une question. La PAC, voilà, on revendique à nouveau des aides à l'actif parce que c'est les plus justes. Et dans un contexte où on revendique une politique de l'emploi, hein, c'est là-dessus qu'il faut être. Et puis après, être paysan dans les zones de montagne, c'est faire face à la prédation. La prédation, c'est intenable en fait. C'est intenable, c'est impossible. Il y a eu des témoignages particulièrement émouvants hier soir sur la table ronde qu'on a eue sur le dossier prédation, que ce soit l'ours ou le loup. La situation des éleveurs est psychologiquement et économiquement intenable. Il y a une espèce de harcèlement moral qui fait qu'on ne peut pas rester sans déchets. Alors effectivement, c'est peut-être mieux ailleurs, c'est peut-être mieux en Italie, c'est peut-être peu importe. Chez nous, ça ne va pas, et il va vraiment falloir agir, parce que là, ça devient vraiment impossible. Il faut une vraie politique de montagne, en fait. Pour avoir une vraie politique de montagne, il faut favoriser aussi l'accès au foncier. Et favoriser l'accès au foncier, c'est prendre en compte l'ensemble des projets. L'ensemble des projets, pas seulement des bâtiments. Et l'ensemble des projets, ça veut dire prendre en compte autre chose que la systématisation de l'élevage. Il y a plein de gens qui s'installent dans d'autres productions que l'élevage en montagne, et eux aussi, il faut les aider. J'allais dire qu'il faut aussi, en montagne, irriguer. Irriguer les projets collectifs. Les projets collectifs et créateurs d'emplois. Parce qu'il y en a plein. On est là en Ariège où il y a plein de gens qui sont en train de faire essaimer une autre agriculture, comme sur plein d'autres territoires difficiles. Il y a des gens qui sont en train de prendre des initiatives en se disant que quoi qu'il arrive, on mange de tout partout. Quoi. Et bien tant qu'à faire, on pourra aussi produire de tout partout. Et c'est ce qu'on appelle la relocalisation ou la confédération paysanne. Et c'est quelque chose qui nous semble important. Il faut, pour relocaliser l'économie, des outils économiques de transformation locale. Il faut que localement, on puisse avoir accès à des abattoirs. Il n'y a pas assez d'abattoirs en France. On le sait qu'il n'y a pas assez d'abattoirs. Il n'y a pas assez d'abattoirs et la Confédération paysanne et la FADER avaient déposé récemment un dossier CASDAR de financement sur un travail sur les abattoirs. Pour aller encore un peu plus loin dans un travail qui avait été avancé, on va redéposer ce dossier. On espère avoir du financement et surtout le soutien du ministère sur ce dossier-là parce qu'il y a vraiment des éleveurs qui ont besoin d'outils de proximité, de transformation pour éviter les scandales qui se sont passés récemment dans certaines régions et pour faire en sorte que tout ce discours anti-élevage ne se nourrisse pas de transport d'animaux trop loin, de conditions d'abattage inacceptables. Donc il faut des abattoirs, il va falloir travailler là-dessus. Il y a aussi le problème des produits fermiers. Il y a pas mal de producteurs en production fermière, il va falloir adapter les normes. Et peut-être que pour adapter les normes, il faut peut-être créer une section spécialisée à France Agrimaire sur les produits fermiers. C'est une demande récurrente de la Confédération Paysanne. C'est quelque chose qu'on ne désespère pas d'obtenir. Pour regarder un peu plus devant, en 2016, on nous annonce que la loi Montagne va être revisitée. Il nous semble qu'il faut faire de l'agriculture le pivot central de cette loi. C'est-à-dire considérer que l'activité en montagne, c'est avant tout l'agriculture. Pas parce qu'on a envie que ce soit ça, parce que c'est la réalité en fait. C'est la réalité. L'économie de montagne, c'est l'agriculture. Et à partir de là, il faut se dire comment on préserve les terres, comment on gère la concurrence entre l'agriculture et le tourisme. Et comment on arrive à gérer le développement des zones d'habitat secondaire qui, dans certaines régions, posent vraiment problème sur la consommation d'espace et la cohabitation. Il nous semble vraiment que la loi montagne, elle doit prendre en compte... On a eu hier une intervention vidéo de la députée de Savoie, dont j'ai oublié le nom, Madame Bernadette Laclais, voilà, merci, qui nous disait qu'effectivement, on allait essayer de construire des nouvelles stations sur les anciennes stations. Ça en entend. Mais il faut aussi veiller à ce que dans les bas de vallée, le développement touristique n'altère pas l'activité agricole. C'est quelque chose d'important. Bon, je commence à faire un peu long, donc je vais conclure. Simplement, je reviens sur ce que j'ai dit au début. Votre présence ici, enfin, c'est la troisième fois dans une année. Je ne suis pas sûr que ce soit arrivé beaucoup à la Confédération Paysanne, comme ministre. Donc, ce n'est jamais arrivé qu'un ministre de l'Agriculture visite trois fois dans la même année la Confédération Paysanne. Alors après, c'est relativement sympathique. C'est relativement sympathique d'avoir la visite d'un ministre. C'est important, mais nous, ce qu'on veut, c'est quand même des avancées politiques. On veut des avancées politiques fortes. Et on aimerait bien que ressortent de cet après-midi-là des avancées très fortes sur la prédation, parce que là, c'est plus tenable. Sur les contrôles et prorata. Il faut absolument nous annoncer, monsieur le ministre, des visites sans sanction, des contrôles à blanc dès le mois de novembre. Ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Et puis, associer fortement les dynamiques des confédérations paysannes sur la loi montagne. Le pays, ce pays difficile, la montagne, vit par les paysans. Il vit pour les autres, par les paysans. Nous, on a l'ambition de revisiter, réorienter l'agriculture. Parce que l'agriculture, aujourd'hui, est dans le mur. Le système agricole, on a envoyé les paysans se fracasser contre le mur du productivisme. Et vous, monsieur le ministre, vous avez aujourd'hui la possibilité de prendre encore des décisions dans le temps de mandat, c'est pas vraiment un mandat, mais dans le temps qui vous reste. Il y a des décisions à prendre. Il faut vraiment réorienter l'économie par l'emploi agricole. On peut créer de l'emploi par l'agriculture, c'est possible. Il faut simplement oser casser le modèle de développement qu'on propose depuis les années 60. C'est quelque chose d'ambitieux. C'est quelque chose à c'est une chose à laquelle on croit, même si elle est ambitieuse. Et puis, en fait, surtout, nous, on se dit que... Hier, on a ouvert le colloque avec David Deschênes, on s'est dit qu'en fait, c'est le point de départ. C'est le point de départ quelque chose. Et puis, peut-être que c'est le point de départ que Stéphane Le Foll va enfin faire des annonces intéressantes et significatives pour la Confédération paysanne.
Voilà, c'était donc Stéphane Le Foll, je rappelle, qui est porte-parole national de la Confédération paysanne.
Laurent Pinatel.
Laurent Pinatel, pardon, décidément, ce soir, c'est... j'ai un peu du mal. Bon, excusez-moi, tout à l'heure j'ai confondu...
On aimerait bien que Stéphane Le Foll...
voilà, tout à fait. Bon, il est temps donc peut-être de faire une petite pause musicale avant de rentrer un petit peu plus en détail dans tout ce qui vient d'être dit. Donc on va écouter une chanson sur la montagne, et qui d'autre que Jean Ferrat pour parler de montagne.
Il quitte un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand il s'essuyait machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais il savait tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains au-dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. En voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortir. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer? En voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver.
De retour sur Radio Bartas, vous écoutez bien le direct du mercredi. Et donc on vient d'écouter Jean Ferrat, La Montagne. Alors on va revenir sur les propos de Laurent Pinatel et non Stéphane Le Foll. Donc avec Muriel, et on va analyser un petit peu ce qui a été dit dans son intervention. Alors il a été rappelé que quand même au préalable il y a eu dans la, notamment sur un point important qui a été évoqué, c'est les conséquences de la réforme de la PAC sur l'agriculture de montagne. Et bon, il y a eu quand même au préalable de bonnes intentions. Avec l'augmentation, par exemple, de l'enveloppe accordée aux zones de montagne, la revalorisation de l'ICHN, qui est l'indice de compensation des handicaps naturels, donc une aide spécifique aux zones de montagne, aux zones défavorisées, la dotation de DPB, donc c'est des droits de paiement de base, donc ce sont des aides à la surface.
On va rentrer vraiment dans les termes techniques, c'est clair que ça va être un peu compliqué pour tout le monde, mais voilà. Enfin bon, c'est...
Notamment enfin, pour les zones d'estive en tout cas, qui n'étaient pas dotées d'aides à la surface jusqu'à présent. Donc tout ça, ça peut paraître positif, mais en fait il y a plutôt un problème de répartition de ces aides actuellement.
Oui, oui, oui. On peut dire qu'il y a eu des avancées dans cette nouvelle PAC, notamment ce qu'on réclamait depuis un moment, c'est la majoration des 52 premiers hectares. Ça, ça a été obtenu, ça c'est sûr. Par contre, oui, la revalorisation de l'ICHN, devait amener plus d'argent sur la montagne, mais le fait est qu'avec la proratisation qui va s'appliquer derrière, ça va contrebalancer l'effet d'augmentation qui était escompté et qui sera finalement peut-être même...
Donc la proratisation, pour les personnes qui ne comprennent pas trop, ça veut dire...
C'est... Des surfaces, voilà. En fait, vu que les surfaces de montagne sont considérées pour la plupart comme peu productives, on nous a demandé d'appliquer un prorata, donc par rapport à leur capacité à fournir une ressource en herbe pour le bétail. Donc, mais... seront proratisées donc les surfaces dites peu productives, mais également les surfaces boisées. Donc là aussi, problématique des surfaces boisées comme les chênaies et les châtaigneraies. Et donc, ça aura pour effet de faire baisser mathématiquement la surface éligible à l'aide. Si elle était considérée comme 100%, là, il va falloir appliquer le prorata selon la surface que le paysan va estimer être disponible pour ses animaux. Et là, voilà, tout un tas de problèmes arrivent avec ces fameuses estimations, puisque c'est très subjectif, déjà, d'une part, puisque déjà les paysans qui ont fait leur déclaration PAC n'ont pas eu les outils qu'on leur avait promis pour faire ces déclarations, notamment des photos et une estimation des prorata par l'IGN, Institut Géographique National.
Voilà.
Donc voilà, tout ça, ça a été promis, puis ça n'a pas été tenu. Donc les paysans se sont trouvés, comme le disait Laurent Pinatel, livrés un peu à eux-mêmes pour faire leur déclaration PAC. Ils ont dû faire des estimations de capacité à fournir de l'herbe de leur surface. Et derrière, vont s'enclencher des soi-disant visites rapides qui sont en fait des contrôles et qui vont venir sanctionner, de forte probabilité qu'il y ait des sanctions à la clé de ces contrôles. D'accord. Donc voilà, alors l'idée de revaloriser la PAC finalement se transforme en punition puisqu'il va y avoir derrière de la sanction et des baisses vraiment réelles d'aide pour beaucoup de fermes et notamment les plus petites fermes.
Alors on a entendu Laurent Pinatel interpeller directement le ministre là-dessus, demandant à ce qu'il y ait une suspension des contrôles ou tout du moins des sanctions qui pourraient...
Voilà, ce qu'on dit c'est que des contrôles, oui, tout à fait, oui, parce qu'en fait on est à la première année de déclaration, donc il est important que tout le monde soit contrôlé maintenant pour ne pas avoir des pénalités avec des effets rétroactifs qui soient appliqués si on était contrôlé 2 ou 3 années après avoir fait la déclaration. Donc il faut absolument que tout le monde soit contrôlé, ce qu'on demandait, qu'on exigeait, et on n'a pas été entendu sur cette chose-là pour jusqu'à présent, c'est des contrôles sans sanction, contrôle blanc, contrôle pédagogique, appelons-les comme on veut. Mais voilà, c'était l'idée de faire en sorte que les paysans puissent rectifier. S'il a fait une déclaration qui est mauvaise, qu'il puisse rectifier de lui-même ou avec l'aide du contrôleur la déclaration. Si c'est trop bas, on remonte. Si c'est trop haut, on baisse. Mais bon, là, apparemment, le paysan qui aura fait une déclaration trop basse, il ne pourra pas relever. C'est-à-dire que là aussi, c'est pas très logique. Par contre, s'il a fait une déclaration trop haute, il va être obligé de baisser. Et derrière, ça peut générer des sanctions. Surtout si l'écart constaté est atteint 2 hectares. Là, il va y avoir des sanctions. À partir de 2 hectares d'écart constaté, c'est sanction. Au-delà de 20% d'écart constaté sur la totalité de la déclaration, c'est suppression des aides. Donc on imagine ce que ça va générer comme stress dans les campagnes quand les contrôleurs vont arriver. Sachant que les gens ont fait leur déclaration un peu pas au pifomètre, mais presque, enfin du moins avec une grosse part de subjectivité, parce que c'est pas évident d'estimer, c'est pas une zone homogène. Hein, je veux dire les parcours qu'il y a dans nos montagnes sont vraiment des zones très hétérogènes et en fait on les passe par un prisme de zones de contrôle, de zones homogènes. Donc déjà on a des outils vraiment pas adaptés. Les paysans n'avaient pas les outils adaptés pour faire ces déclarations. Quoi.
Donc ces contrôles, ils vont arriver prochainement là ? Est-ce qu'on a une idée ?
Ben, on a une idée précise, puisque les contrôles, le ministère a dit qu'ils arriveraient le 15 décembre, à partir du 15 décembre.
D'accord.
Donc ça a été dit hier au ministère, puisque la conf est allée demander un peu, enfin tient de court le ministère sur ce sujet-là. Quoi.
Donc la conséquence aussi donc pour l'ensemble de ces fermes de montagne, ces petites fermes, c'est une baisse des dotations du fait de la proratisation.
Oui, oui, oui.
C'est quelque part on reconnaît simplement l'herbe comme surface fourragère essentielle.
Alors que c'est tout à fait faux, oui, parce que c'est vrai que les brebis, les chèvres, elles pâturent tout à fait autre chose, et même les vaches, tout à fait autre chose que de l'herbe, on va dire, qu'il y a dans une prairie naturelle ou artificielle. Hein. Donc elle mange de tout, des buissons, des feuilles, tout ce qui fait aussi la spécificité des produits de la montagne. Donc on a aussi des produits de qualité grâce à ces parcours. Et malheureusement, la PAC ne le reconnaît pas. Au contraire, elle va venir sanctionner ça, et c'est là que c'est pas normal.
Alors après, il y avait une autre question qui avait été soulevée, c'est par rapport, donc, j'en parlais tout à l'heure, des DPB, des droits de paiement de base, donc des aides à la surface pour les zones d'estive. Mmh. Ici, donc, on est en zone avec une grosse présence de pastoralisme. Mmh. Les conséquences pour ces aides-là, c'est que, par exemple, des personnes qui sont aujourd'hui installées sur un groupement pastoral qui souhaiteraient partir, pourrait récupérer en fait avec elle l'ensemble de ses aides.
La nouvelle PAC a doté de DPB les estives, ce qui était plutôt une bonne chose, mais le revers de la médaille, c'est que ces DPB sont affectés aux exploitants et non aux hectares. Donc un exploitant qui va se retirer de l'estive va partir avec les DPB. Et là, c'est gros souci, c'est-à-dire que s'il y a plusieurs exploitants qui partent, et ça peut arriver, hein, du groupement, et bien, du coup, les DPB vont être beaucoup moindres. Et s'il y a un jeune qui veut rentrer, ben, comment on fait ? On répartit, on fait comment, quoi ? Alors là aussi, on a des propositions, parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup parlé de ce problème-là pendant le colloque, dans un des ateliers, on va dire. Et en fait, bon après peut-être qu'on le dira un peu après, on est, enfin, le colloque quand même, c'est pas juste pour rester sur un papier quand les actes seront écrits, mais c'est aussi pour s'en servir et aller interpeller le ministère là-dessus. Donc là, Laurent Pinatel a interpellé Stéphane Le Foll ce jour-là, mais derrière, je sais que la Confédération Paysanne est allée de nouveau au ministère pour justement essayer de trouver une solution à ce problème. Mais bon, c'est pas gagné encore. Hein. Ouais.
Donc effectivement, il y a tout un tas de problèmes qui ont été soulevés. Oui. La Confédération Paysanne, par rapport à ces questions-là, quelle proposition est là ? Par exemple, par rapport à l'ICHN, il y a l'idée d'essayer de...
L'idée de revaloriser encore plus les premiers hectares, justement, ce qui permettrait d'aider un petit peu plus les petites fermes. Et parce qu'en fait, du coup, pour toucher l'ICHN, on va dire de manière complète, il faut avoir 75 hectares. Le plafond ICHN était à 50, donc ça veut dire que ça va encore générer de la course à l'hectare pour obtenir les 25 hectares manquants pour arriver au plafond de l'ICHN. Et ça, c'est pas très bien, quoi. Donc du coup, il y a déjà des problématiques foncières en montagne. Ça rajoutera encore de la pression foncière pour justement avoir un portefeuille PAC complet. Donc l'idée, c'est justement, au contraire, de prendre les choses à revers et d'aider de cette manière-là, en revalorisant vraiment les premiers hectares. Alors l'idée, c'était de revaloriser de 500 euros, de doter de 500 euros les 10 premiers hectares. Ça, ce serait une mesure forte qui permettrait justement de soutenir les plus petites structures.
Et puis ça permettrait aussi de soutenir des activités qui ne relèvent pas simplement de l'élevage.
Voilà, mais on va dire qu'il faudra encore que l'ICHN soit accessible à toutes les productions, même celles qui ne sont pas dotées d'hectares. Alors on pourrait faire un mix entre une part fixe attribuée à qui que ce soit, qu'on soit éleveur ou pas, et une part variable liée aux hectares. Mais sinon, après, bon, la solution, c'est, on a toujours dit, c'est aussi les aides à l'actif, quoi. Mmh.
C'est important, ça, il faut peut-être le...
Oui, et surtout de plafonner aussi le montant des aides selon les actifs. Ça introduit une dimension sociale dans la politique de la PAC.
Notamment pour favoriser l'emploi en agriculture.
Favoriser l'emploi, favoriser les installations et favoriser une meilleure répartition des aides. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, plus on a d'hectares, plus on touche. Et ça, nous, on a toujours dénoncé ça. On a toujours réclamé des plafonds par rapport aux aides et suppression des planchers. Parce qu'aujourd'hui, au lieu de nous mettre des plafonds, ben finalement on met des planchers, et puis finalement c'est exactement l'inverse de ce qu'il faudrait qu'il se passe.
D'accord.
Je ne sais pas si j'ai été assez claire.
Oui. Non, c'est vrai qu'après on avait parlé aussi beaucoup dans ce colloque de le fait d'insister sur le fait que la montagne, enfin l'agriculture de montagne, c'est pas que l'élevage justement, et qu'il y a, d'autres activités, le maraîchage, la viticulture, qui doivent être prises en compte et qui ne sont pas suffisamment prises en compte aujourd'hui.
Et il y a même des régions, des massifs montagneux où l'activité d'élevage est en sérieux déclin. Je discutais avec un maraîcher donc du 05 là, et qui disait que chez eux, actuellement, c'était vraiment les productions autres que l'élevage qui avaient le vent en poupe, puisque les porteurs de projets qui souhaitaient s'installer voulaient faire du maraîchage, de l'apiculture, faire des plantes... aromatiques, des plantes à parfum aromatiques et médicinales, enfin, toutes les productions qu'on peut faire ailleurs et également à la montagne, qui se prêtent aussi à ce genre à la diversité des productions, quoi. Donc c'est sûr que il faut prendre en compte tout le monde. Aujourd'hui, la PAC ne prend pas en compte tout le monde. Il y a énormément de productions qui ne sont pas aidées ou peu aidées, beaucoup moins que l'élevage. Donc voilà, c'est aussi ça qui a été abordé dans l'atelier, dans le deuxième atelier dans lequel auquel je participais.
D'accord. Et donc Laurent Pinatel a aussi beaucoup insisté sur les petites fermes. Les petites fermes en zone de montagne, ben elles sont importantes, elles sont essentielles.
Elles sont nombreuses surtout.
Elles sont nombreuses.
On les retrouve beaucoup dans les zones de montagne, puisque de fait, ce sont des zones difficiles à cultiver et à utiliser, on va dire. Donc forcément, on ne peut pas se retrouver sur des structures démesurées, ou alors si on le fait, ça peut arriver. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de grosses fermes à la montagne, mais il y a quand même beaucoup de petites et moyennes fermes à la montagne.
Puis ce sont elles qui permettent de maintenir l'activité. Oui.
Et de maintenir aussi un tissu rural vivant, parce que c'est important aussi dans des endroits où, comme chez nous, on est dans une zone très peu peuplée, où vraiment l'agriculture a vraiment son rôle à jouer en termes social, maintien des services publics, les écoles, enfin tout ce qui fait la vie dans des territoires où on n'a pas une grande ville à proximité. Moi, dans mon atelier, j'intervenais, je disais, bon, mais moi, la première ville avec de plus de 15 000 habitants, elle est à plus de 2 heures de route de chez moi. Donc forcément, si on ne fait pas attention à maintenir vraiment l'emploi agricole et la vie à l'année dans nos territoires, c'est vraiment beaucoup de choses qui vont derrière partir à volo, quoi.
Après, c'est un sujet qu'on avait abordé aussi dans un atelier sur l'installation et la transmission. C'est vrai qu'on constatait quand même que les petites fermes étaient plus facilement transmissibles.
Ça aussi, oui.
Alors que ça soit dans un cadre familial et hors cadre familial. Donc il y a un enjeu important justement d'éviter les agrandissements importants des fermes. Et je rebondis là sur un problème qui avait été évoqué là justement par rapport au pastoralisme. C'était le risque aussi, et donc là c'est en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au DPB, c'est qu'on favorise des transhumants en fait. C'est-à-dire que des personnes qui souhaitent vivre de l'agriculture sur ces zones de montagne soient à un moment mis un petit peu de côté.
Oui, oui, tout à fait. C'est un risque qui a été vraiment soulevé là, dans ce colloque. C'est une inquiétude et il faudrait trouver le moyen pour que vraiment, c'était par rapport à l'ICHN aussi, hein,
oui.
Que l'ICHN reste vraiment à la montagne et que ce soit que le siège d'exploitation... soit pris en compte justement pour être éligible à l'ICHN, parce que du coup, oui, ça risque de favoriser les estives. Il y a aussi une mauvaise nouvelle dans cette PAC, c'est qu'il n'y a plus de limite d'âge pour faire une déclaration de surface et prétendre à l'ICHN. Donc ça aussi, ça va être un sacré problème, puisque déjà, les gens avaient du mal à partir à la retraite par le fait que les retraites sont vraiment très très peu, très faibles en agriculture, donc avaient toujours envie de prolonger un peu pour ne pas se retrouver dans la misère une fois à la retraite. Et d'autre part, là, du coup, ça va encore encourager les gens à rester encore plus en activité et ne pas prendre la retraite. Donc là aussi...
Du coup, ça va compliquer encore plus les installations derrière.
Et la disponibilité du foncier, surtout.
Et puis, ça va avoir un phénomène spéculatif sur les terres agricoles.
Oui, oui.
D'accord, alors après il y a d'autres points, enfin on va pas tout reprendre de ce qui s'était dit, mais il a été mentionné le besoin d'avoir des équipements locaux, notamment il était question des abattoirs par exemple.
La problématique des abattoirs, avec l'actualité de l'abattoir d'Alès, on est en plein, donc l'importance d'avoir des abattoirs de proximité, de pas avoir à faire des kilomètres aux bêtes qui vont à l'abattoir, c'est pas agréable pour personne. Et puis avoir des outils de transformation collectif. Alors ici à Florac, on a quand même pas mal de choses dans le secteur, mais c'est pas tout. Je veux dire, en apiculture, on pourrait très bien avoir une miellerie collective aussi. Il n'y a pas. Enfin, il y a vraiment un besoin d'outils collectifs, que ce soit d'abattoirs, de transformation, et d'avoir aussi. Moi, je pense que la question des normes est très importante. D'avoir des normes adaptées à la montagne et pas de vouloir adapter la montagne aux normes industrielles, parce que ça, c'est catastrophique. Hein. On sait les dégâts que ça peut faire dans des fromageries, pour des petits producteurs de volailles, pour un tas de production qui devraient être soutenues et qui, de fait, par ces normes, sont vraiment pénalisées. Quoi.
Effectivement, ça a été... Il y a d'ailleurs un atelier qui a été consacré à ce sujet-là, quoi, sur les produits de montagne, leur spécificité. Effectivement, les normes, c'est quand même un gros problème. Il a été mentionné aussi durant ce colloque la question de l'accès au foncier. Hein. Bon, on a l'Ariège a un peu les mêmes problématiques que les Cévennes, du terrain très pentu, morcelé.
Avec en plus la problématique du tourisme, on va dire lié à la montagne, l'activité hivernale de la montagne.
Tout à fait. Et on voit que c'est compliqué de concilier ces deux types d'activités. En tout cas, il y a beaucoup de...
Elles sont pourtant complémentaires.
Elles sont complémentaires.
Mais en termes de foncier, il y a l'une concurrence sérieusement l'autre.
C'est très difficile. Mm-hmm. Enfin, on a eu l'occasion de faire des visites de terrain le matin. Et on a vu les exemples d'associations foncières pastorales qui sont montées et qui sont quand même assez intéressantes.
Intéressantes et puis voilà, qui ont plus de poids que quelqu'un qui est tout seul et qui va devoir céder à des pressions. C'est quand même des structures collectives qui sont plus solides et qui sont intéressantes. Ouais.
Très bien. Alors, il y a un autre point qui a été mentionné, c'est celui de la prédation. C'est un gros sujet d'actualité.
D'actualité
là
aussi.
Et donc il y a eu en fin de la première journée des témoignages d'éleveurs donc qui ont justement parlé des conditions dans lesquelles ils travaillaient. Mm-hmm. C'était vraiment très très émouvant et moi ça m'a fait penser un petit peu à ce qui s'est passé à Florac là avec le faux procès du loup. Là, moi, le faux procès du loup, c'était dans le cadre d'un tribunal. Là, on était dans le cadre d'un colloque, mm-hmm. et j'ai trouvé les discussions vraiment très très intéressantes. On a fait remonter aussi toute la complexité du sujet.
Oui.
Et du coup, moi, je voulais profiter pour vous faire écouter l'intervention de Michel Meuret, qui est un scientifique. Et qui, justement, à cette occasion, nous a parlé d'un plaidoyer pour des écosystèmes non désertés par des bergers. Donc, c'est un plaidoyer écrit par une trentaine de scientifiques de différents bords. Il y a des sociologues, il y a des économistes, il y a des écologues, des juristes, et qui disent qu'il faut vraiment, aujourd'hui, agir par rapport au phénomène de prédation. Donc, je vous propose qu'on l'écoute.
Bonsoir, mon nom est Michel Meuret, je suis directeur de recherche à l'INRA à Montpellier. Je suis écologue, mais je viens en fait ce soir à la demande des organisateurs de ces deux journées m'exprimer non pas au titre de l'INRA ou de moi, mais au titre de 34 scientifiques qui, pour certains, vous l'avez vu passer, ont signé une tribune dans le journal Libération l'année dernière, en octobre. Donc des scientifiques de compétences disciplinaires variées, issus d'organismes de recherche publics, je tiens à le dire. Et donc c'était un document que vous trouvez facilement sur Internet, plaidoyer pour des écosystèmes non désertés par les bergers. En résumé, vous n'apprendrez peut-être pas énormément de choses, mais c'est quand même important de savoir qu'il y a 34 scientifiques de diverses disciplines, et ayant quand même pignon sur rue dans ce pays, qui pensent ça, et qui pensent la même chose, beaucoup de choses qui se sont dites ce soir. En de nombreuses régions, les troupeaux subissent l'assaut des loups. La gravité de la situation plaide pour l'adoption de mesures d'urgence, je dis bien d'urgence, sur le terrain comme dans le domaine réglementaire. Paradoxalement, c'est l'élevage pastoral, l'une de nos agricultures les plus respectueuses de la biodiversité, que les loups, sous statut de protection stricte, menacent de faire disparaître. Les attaques se déroulent l'été sur les alpages, mais aussi aujourd'hui dans les vallées, et quasiment en toute saison. Les attaques s'étendent à présent aux veaux, génisses et chevaux. Pourtant, à partir de techniques venues des États-Unis et d'Italie, nos éleveurs et bergers ont adapté leurs pratiques. Le succès est plus que mitigé. Je ne vais pas décrire en détail ce graphique. Vous avez en courbe foncée le nombre de loups, axe de gauche, le nombre de loups adultes estimés par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage depuis 1993 jusqu'à l'année dernière, et en courbe plus claire, le nombre de victimes indemnisées, donc on en est à plus de 8000, et il semblerait que cette année, on soit à nouveau à peu près au même niveau. Vous voyez comme les deux courbes sont proches, du moins dans leur dynamique. Ce qui est très préoccupant selon nous, c'est que les loups attaquent désormais de jour comme de nuit. Je confirme, à l'échelle nationale, on est à plus de 40% des attaques de jour, et notamment en raison des mesures de protection la nuit. Ce qui rend donc pour partie obsolète le parc de protection nocturne. La présence humaine ne les dissuade plus. Ils ont perçu le bénéfice de réitérer leurs attaques sans risque, y compris aux abords des routes et des habitations. C'est un changement de comportement qui était prévisible. L'opportunisme alimentaire est un trait de comportement commun à tous les grands carnivores sauvages. C'est totalement naturel. Chez les lions, les tigres, les loups, les aigles, allons chercher les crocodiles et je ne sais quoi encore. Partant, en France et en Europe, nos paysages ne sont pas ceux du Yellowstone, du Grand Nord canadien ou de la Sibérie. Je vous mets ici à titre de comparaison la carte de la France et l'espace de ce qu'on appelle le Greater Yellowstone Ecosystem, c'est-à-dire l'espace qui, aux États-Unis, dans le nord des Rocheuses, est celui où est travaillée la notion de loup régulateur d'écosystème. Vous voyez les trois régions. Non, ici, nos paysages sont occupés et entretenus depuis des dizaines de siècles, et ce sont bien les hommes et non pas les loups qui ont la charge de veiller à la bonne santé des écosystèmes. Conclusion. Les dispositifs de protection des troupeaux les plus élaborés, par de nuit, trucs rouges qui s'agitent, ultrasons, je ne sais trop quoi, quel drone encore, ont été dévalués en peu d'années. Les loups sont intelligents, on s'est répété plusieurs fois à ce propos, audacieux et inventifs. La stratégie européenne de coexistence, et je remets les guillemets, a échoué. Elle doit être remise en question. Au-delà, excusez-moi, des coûts financiers, je rappelle ici, plus de 50 000 euros par loup adulte et par an pour la protection et l'indemnisation en 2014. Et encore, on nous dit qu'on est un peu sous-estimé. Les enjeux écologiques et humains s'amplifient et demeurent indissociables, on l'a entendu dans les témoignages. Nos sociétés ont besoin d'écosystèmes, bien sûr, et de paysages diversifiés. La plupart fonctionnent et sont nouvelles. Porte ouverte ce soir avec vous, grâce au méticuleux travail des éleveurs hébergés. Par contre, la situation devenant pour eux intenable à nos yeux, un patrimoine majeur est en passe d'être sinistré par les loups, en montagne, sur les estives, comme dans les vallées. Il est vraiment important de répéter aujourd'hui que c'est un problème à l'année dans beaucoup de régions de France. Une véritable gestion s'impose. Pour être efficace, les prélèvements doivent être prompts, et préférentiellement, d'après nous, ciblés sur des individus, couples ou meutes qui posent problème aux activités humaines. Nous proposons de s'intéresser à ce qui est qualifié aux États-Unis de loup émeute à problème. C'est-à-dire que ce n'est pas un loup qui passe dans la lunette, c'est un loup qui est repéré pour être vraiment régulièrement attablé, voire en groupe, à un groupe. Ici, une photo prise dans la Meuse, le 20 octobre 2014, vous voyez à quelle distance l'attaque a eu lieu des habitations. Nos collègues aux États-Unis avec qui nous travaillons, et notamment ici des personnes qui sont une ONG qui s'appelle People and Carnivores, donc ce n'est pas du tout des anti-loups de toute sorte, ils travaillent vraiment aux solutions à trouver pour améliorer la coexistence, ils parlent de ça, nous disent « Les loups doivent associer le bétail avec les humains et les humains avec le danger ». Les humains peuvent tenir les loups à distance, mais ils doivent être à la fois convaincants et tenaces. Lorsqu'un loup, et ça c'est très important, et beaucoup de témoignages en France nous laissent penser que ça s'applique chez nous vraiment, lorsqu'un loup a déjà obtenu un profit alimentaire, n'offusque qu'un, sur du bétail, il devient nettement plus difficile à l'éloigner. En France, il est bien tard, car les loups ont déjà acquis, selon nous, plus de 20 ans de mauvaises habitudes. 20 ans de stricte protection, allez, disons 7, 17 ans si je calcule plus précisément, de stricte protection, leur entreprendre des bien mauvaises habitudes, voire même des plus mauvaises habitudes que ceux qu'ils avaient acquis en Italie, où ils n'avaient pas du tout la paix. Peut-être n'est-il pas trop tard. Les signataires, c'est important, et je vous les laisse à l'écran, parce que en fait, certains d'entre eux sont aussi dans la salle. Merci.
Voilà, c'était donc Michel Meuret qui est écologue à l'INRA et qui nous présentait donc le plaidoyer pour des écosystèmes non désertés par les bergers que vous pouvez trouver sur internet directement. Alors Muriel, moi je voulais connaître un petit peu la position de la Confédération paysanne par rapport à ces problèmes de prédation.
Elle rejoint largement ce qu'a dit Monsieur Meuret, donc surtout faire en sorte que la prédation baisse de manière rapide, parce que là ça devient insupportable, et de manière significative, parce que c'est pas le tout de dire on est pro-loup, anti-loup, ça c'est pas la question. La question c'est de dire que c'est pas du tout possible de continuer pour les éleveurs à travailler comme ça, à subir ce stress. C'est vraiment des gens qui sont dans la détresse vraiment morale aussi. Et récemment, là, il y a un paysan qui a subi des attaques et qui avait ses enfants avec lui. Il est dans le 06, donc les Alpes-Maritimes. Et il a eu tellement peur pour ses enfants, il a eu peur, qu'il est allé porter plainte pour non-assistance en personne en danger. Donc ça a fait remuer un petit peu les choses. Et je pense que voilà, il a eu raison, parce que vraiment, on ne s'imagine pas ce que vivent les éleveurs. Et c'est vraiment grave, c'est à prendre au sérieux. Et voilà, on ne peut pas continuer à dire non, il faut protéger le loup absolument et ne rien faire. Les éleveurs doivent s'adapter. On ne peut pas dire ça, quoi.
Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'éleveurs qui ont arrêté à cause de la prédation. Ouais. Ça a été dit dans les témoignages. Et ce qui a été souligné aussi, c'est le fait que les moyens de protection qui ont été mis en place...
Ils sont inefficaces. Enfin, ils ne sont pas suffisamment efficaces. Le loup s'habitue aussi, hein. Je veux dire, il arrive à détourner des choses. Il arrive. Il y a un éleveur aussi qui était producteur de chèvres mohair et qui avait qui a abandonné son activité complètement. Parce qu'en fait, le loup a exercé une prédation trop importante et son petit troupeau de chèvres a quasiment disparu. Les gardes de l'ONCFS sont venus 6 jours durant, 6 jours et 6 nuits. Le loup a attaqué quand les gardes sont partis le 7e jour. Donc c'est quand même un animal relativement intelligent et opportuniste. Hein, donc on ne peut pas demander aux éleveurs de veiller jour et nuit sur leur troupeau ou alors... Je veux dire, on ne peut pas demander aux éleveurs de rentrer leur troupeau toute la nuit, tous les jours. Ce n'est pas possible.
Parce que justement, les éleveurs qui ont parqué leurs animaux la nuit ont constaté que finalement, ils subissaient par la suite plus d'attaques en journée.
En journée, le loup s'adapte. Hein, il n'est pas bête.
Donc c'est vrai qu'on voit bien que la coexistence est difficile, mais ça ne veut pas pour autant dire que la volonté, c'est d'éradiquer complètement le loup.
Non, on n'a jamais dit ça. Mais par contre, voilà, il faut faire en sorte que la prédation baisse, que les pouvoirs publics qui assument le fait que le loup soit sous statut hyper protégé, mais qu'ils prennent en main les choses réellement, que le nombre de loups qui doit être éliminé soit éliminé, qu'on arrête de laisser progresser le loup de 20% par an, c'est pas supportable. À terme, les problèmes se multiplient, donc voilà, il faut que les pouvoirs publics prennent en main les choses sérieusement. Ça n'a pas été fait jusque-là. On a suivi des protocoles très, très strict pour pouvoir faire ci, pour pouvoir faire mi. Mais bon, voilà, on est dans une impasse, on est devant un mur et on ne peut pas demander aux éleveurs de continuer à subir ça.
Et concrètement, est-ce que ça veut dire qu'il faut demander à ce que le loup soit retiré des espèces protégées ?
Nous, c'est ce qu'on demande. De toute façon, on ne pourra pas faire grand-chose si le loup continue d'être hyper protégé comme ça. Alors, soit par le biais d'une modification de la directive Habitat, la convention de Berne, ça semble beaucoup plus compliqué. Mais bon... À un moment donné, il faudra bien faire quelque chose, quoi. Parce que c'est vraiment de nombreux élevages qui sont menacés. Après, voilà, c'est un choix de société. Hein. C'est pas seulement aux éleveurs de décider. Moi, je pense qu'il faut qu'on explique bien les enjeux à tout un chacun. Qu'est-ce qu'on veut manger demain ? Est-ce qu'on veut manger des bêtes élevées en batterie, nourries au granulé ? Ou est-ce qu'on veut manger des animaux qui ont vécu des instants de leur vie, on va dire, plus agréables que d'être dedans et qui ont pâturé des bonnes choses, ben voilà, des produits de qualité. Qu'est-ce qu'on veut manger demain ? Si demain on veut manger, à ce moment-là, on peut dire ben on met toutes les brebis et toutes les bêtes dans des bâtiments et puis on assume, hein, on est capable, on veut manger, ben tant pis, on mangera ce qu'on mangera. Mais je ne pense pas que ce soit le choix que feraient les consommateurs. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils soient au courant que le loup pose de réels problèmes. C'est vrai que c'est beau, le loup, c'est une bête sauvage, ça fait dans l'esprit, dans l'imaginaire des gens, c'est un animal superbe, hein, mais voilà, l'animal superbe, il pose des questions à tout le monde, pas seulement aux paysans. Les paysans, ils ont les problèmes, mais cette question-là, elle doit être abordée de manière collective.
Ça révèle un choix de société.
Oui, tout à fait.
Très bien. Eh bien, on arrive bientôt à la fin du direct. Ce que je voulais dire, c'est que donc de ce colloque, il va y avoir des actes qui vont être produits, mais peut-être pas
seulement. C'est bien de mettre les choses sur du papier, c'est très bien pour les années futures, mais de ce colloque, on va s'en saisir, parce que c'est quand même, on va dire que ça a été une belle réussite, il y a eu beaucoup de travail de fait, ça a beaucoup travaillé dans les ateliers, il est sorti de nombreuses propositions concrètes, on va continuer de porter ces propositions auprès du ministère, et auprès des politiques en général, et essayer de les faire avancer, de les faire évoluer. Et si tu me le permets, je veux finir sur une petite note sur les visites rapides, les contrôles rapides là, qui vont avoir lieu là, dans le courant du mois de décembre. Surtout, je voudrais dire aux éleveurs qu'ils assistent à ces contrôles, ça c'est la première des choses, parce qu'ils ont le choix d'assister ou de ne pas assister, donc il faut surtout qu'ils assistent. Qu'ils assistent de préférence en présence d'autres personnes, une à deux personnes peuvent aussi assister l'éleveur. Il est important qu'ils préparent les arguments pour défendre les prorata qu'ils ont appliqués à leur surface, avec des cahiers de pâturage, avec tout ce qu'ils ont à leur disposition, des photos, des choses comme ça, qu'ils peuvent argumenter. Il va falloir argumenter auprès des contrôleurs. Il ne faudra pas le laisser raconter des sornettes, il faudra avoir de la répartie. Et du coup, se faire accompagner, ça peut être pas mal aussi. Et nous, à la Confédération Paysanne, on propose aux éleveurs qui le souhaitent qu'ils soient syndiqués à la Confédération paysanne ou non syndiqués, d'être accompagnés dans la mesure de nos moyens ou peut-être de les aiguiller sur d'autres personnes qui pourront les accompagner. Voilà.
Très bien, ben merci beaucoup Muriel. Donc les actes, on pourra les avoir sur le via la Confédération paysanne.
Oui, seront, bien sûr.
Ils
oui,
seront téléchargés peut-être sur le site.
Je ne sais pas exactement, mais normalement c'est imprimé. Hein, c'est plutôt imprimé. Après, je ne sais pas si ça pourra peut-être être téléchargeable, mais là, je ne sais pas. C'est à partir du mois de janvier a priori.
D'accord. Très bien, ben merci beaucoup en tout cas pour être venu parler de tout ça sur le plateau de Radio Bartas. Merci Cécile, je ne sais pas si on a le temps de passer une musique, je ne pense pas. Voilà, et ben c'est le temps de, il est temps de saluer ben les auditrices et les auditeurs. À très bientôt.
Tu écoutes Radio Bartas sur le 107.0. Radio Bartas. Bartas.